que vous êtes en train de comprendre et de saisir ce que c'est que le prédicat. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le prédicable, c'est donc l'universel saisi dans telle ou telle de ses modalités. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'universel. Et je divise l'universel, je constate qu'il y a de fait parmi les universaux, il y a des modalités différentes. L'universel étant ce que l'intelligence a sécrété, ce que l'intelligence a réalisé comme être de raison, dès qu'il y a abstraction, dès que je suis en face de l'abstraction, l'intelligence sécrète immédiatement un concept abstrait qui possède comme modalité l'universel. Ça, il faut toujours revenir à ça. Parce qu'autrement, vous perdez le pied. Et vous saisissez que l'intelligence abstrait de diverses manières. Et c'est très curieux que vous n'en avez pas conscience de ça. Ça, c'est des inconscients de l'intelligence. On fait de la psychanalyse, on fait un nouveau philosophique, on essaye. C'est très intéressant. Parce qu'au fond, ceux qui ne veulent pas accepter l'intelligence abstraite, il y a un ils ne veulent pas accepter. L'intelligence n'abstrait jamais. Moi, je veux l'intelligence intuitive. Ce n'est pas votre volonté, ça. Votre volonté. L'intelligence, c'est une tenue. Elle est selon cette modalité-là. Alors, si vous voulez l'intelligence purement intuitive et vous jetez l'abstraction générique, vous voyez ce que ça va faire. Parce que c'est vraiment un foulement, le foulement de la vie de l'intelligence. Et il faut découvrir que dans la vie de l'intelligence, il y a de fait ces plis tout à fait premiers. L'intelligence connaît génériquement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence connaît spécifiquement. L'intelligence connaît l'espèce. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est là où je saisis les modalités particulières où l'intelligence saisit la quiddité. On avait vu l'appréhension, c'est saisir la quiddité de la réalité. Le toti eleinai, si vous aimez mieux. Hein? Le toti eleinai. L'intelligence, c'est de saisir ce qu'est la réalité. Ce qu'il y a d'essentiel dans la réalité. Et pour saisir ce qu'il y a d'essentiel dans la réalité, l'intelligence abandonne des quantités de choses pour la saisir génériquement. Donc c'est l'intelligence qui se met dans cette attitude la plus pauvre, la plus accueillante. Oui. Bonjour,
vous avez sans doute un refoulement.
C'est très important.
Vous avez refoulement au sens
que Freud. Et Freud, hein, c'est une petite application. Parce que Freud le fait du côté affectif. Moi, je peux le faire du côté intellectuel. Le dialogue que j'ai eu avec ces Freudiens de Paris, c'était très intéressant parce qu'au fond, j'ai dit, il y a une femme dans Freud. Freud n'a pas regardé du tout le point de vue de l'intelligence. C'est très vrai. Il a regardé le côté affectif. Or, de fait, l'affectivité est toujours comme on est dans le point de vue de l'intelligence. Et donc, on peut essayer de saisir comment une intelligence, ordinairement, c'est très vrai que les arrêts de l'intelligence sont provoqués par l'affectif. Un gosse n'étudie plus parce que son professeur lui a tapé sur les doigts. Alors, il a pris là, fini, il est bête. Et alors, s'il est bête, je n'écoute plus rien de lui. Donc, a priori affectif. C'est a priori affectif que vous vis-à-vis de tout. Il y a des quantités, des atomes crochus, des atomes au contraire non crochus. Alors ça fait qu'il y a des a priori. Dès qu'il y a un a priori affectif, vous arrêtez, le développement d'intelligence ne se fait plus. Si le développement d'intelligence ne se fait plus, alors vous n'avez plus cet appétit de l'intelligence par rapport à la réalité. Et votre intelligence s'arrête. Alors elle prétend intuitive. C'est intéressant de saisir, parce que c'est le fondement de votre vie intellectuelle. C'est le fondement absolument commun, là. Que vous fassiez des mathématiques, que vous fassiez de la science, que vous fassiez toujours, il y a la connaissance générique. Que saint Thomas appelle l'univers, le fond. C'est l'abstraction universelle. Et l'abstraction universelle est fondamentale. Elle est tout le temps présente. Mais l'abstraction universelle a cinq modalités. Mais ce que saint Thomas ne dit pas. Il parle des prédicats, par exemple, mais il ne dit pas, il ne fait pas le lien entre les deux. Faisons le lien, c'est intéressant, parce que ça nous aide à mieux comprendre que de fait, vous avez cinq vitesses. Et comme ces vitesses sont automatiques, et que vous en avez pas, c'est très bon, parce qu'il y a cinq vitesses automatiques. C'est vrai, de temps en temps, vous élisez le genre, de temps en temps, vous élisez... Alors, il y a une espèce d'orientation d'intelligence. L'intelligence s'oriente vers le réel, et elle veut le saisir qualitativement. Mais alors elle le saisit qualitativement, fondamentalement, elle le saisit qualitativement, dans l'aspect le plus déterminé, elle le saisit avec la plus de rigueur possible, l'espèce. Alors là, vraiment, hein, l'espèce, les deux tenailles, hein, les deux membres se rejoignent. L'intelligence veut saisir fondamentalement, elle reçoit, et puis elle saisit. Et alors à ce moment-là, l'espèce, les deux sont tenus. Vous saisissez vraiment la réalité. C'est très très rare. Parce qu'au fond, il n'y a qu'une seule. Quand il faut qu'une seule réalité que vous pouvez dire ça, c'est pour l'homme. Uniquement. L'intelligence, c'est alors le propre et l'accident, ce que nous allons voir. L'intelligence, elle va saisir le point de vue. Mais il faut bien comprendre que nous sommes là en face de quelque chose qui échappe à notre volonté. Étudiez le langage, étudiez la manière dont vous connaissez, vous verrez toujours ces cinq aspects différents. Oui.
Entre le vivant et le réel.
Le vivant et le réel. Alors, vous voyez, l'être. Le réel, c'est l'être. Alors, c'est pour ça que j'ai dit l'être, je l'ai laissé de côté. C'est un concept qui n'est pas générique. C'est un concept fondamental, beaucoup plus, qui a une extension beaucoup plus grande, mais qui n'est pas une extension générique. Alors c'est là, vous verrez là, entre le réel et le vivant. Je dirais tout vivant, peut-être même qu'il est vivant et réel, mais tout réel n'est pas nécessairement vivant. Vous avez le problème de l'extension. C'est très important l'extension, parce que l'extension vous fait tout de suite comprendre, quand vous comparez deux choses, regardez tout de suite le problème de l'extension. C'est la chose la plus facile à voir la différence. Puis alors après, regardez le problème de la compréhension. Alors ça c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est la signification, il faut piger l'histoire. Si vous ne pigez pas, on peut très bien rien comprendre et regarder l'extension. Et là, si on était méchant, on verrait tous les systèmes qui sont uniquement au niveau de l'extension. Sans aucune compréhension. Et c'est très curieux, vous pouvez qualifier, il y a des gens qui ne pensent qu'au niveau fonction. Donc ils ne comprennent rien, ils sont fonctionnaires d'intelligence. Alors c'est la fonction, c'est la fonction. Vous ne regardez que l'extension. Et ne regardant que l'extension, vous ne comprenez rien. La compréhension est complètement oubliée. On va le voir ça au terme, parce que c'est intéressant, c'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir que l'universel peut être regardé uniquement au niveau fonction ou au niveau compréhension. Alors nous, nous regardons des deux côtés. Nous sommes dans une perspective aristotélicienne. Nous sommes dans la perspective de saint Thomas et d'Aristote. Et nous avons une conception d'universel qui implique le point de vue de l'extension et le point de vue de la compréhension. Il y a les deux. Il y a la fonction de l'universel, alors son extension, et puis l'aspect de la compréhension de l'intelligence, de l'universel. Alors, et chaque fois que vous êtes en face d'une de ces modalités de l'universel, vous pouvez toujours regarder extension et compréhension. Et vous voyez tout de suite la diversité. Et la plus grande diversité, c'est genre, différence spécifique. Tout de suite. La plus grande diversité. L'espèce, pour comprendre, le propre. Le propre, il joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Étant donné que nous saisissons que très rarement la différence spécifique, quand nous ne saisissons pas la différence spécifique, alors nous nous rabattons sur le propre. C'est pour ça que la plupart du temps, ce qu'on appelle le propre, c'est pour ça que la plupart du temps, on ne saisit que le propre. Le propre, qu'est-ce que c'est ? L'universel qui est le propre. Le propre, regarde. Il se prend aussi ex parte formé. Forcément. Le propre distingue. Distingue une réalité d'une autre réalité. Vous voyez, le propre de cet animal, c'est d'avoir tel genre de démarche. Caractériser. Ça caractérise le propre.
le propre de tel animal, quand vous ne savez pas encore ce que c'est. Alors vous le caractérisez par le propre.
Alors vous distinguez dans le propre divers propres. Le propre qui est celui qui caractérise d'une manière la plus profonde et qui touche le point de vue de la différence spécifique. Il y a le propre de la différence spécifique et il y a le propre du genre.
Autrement dit, il y a un propre qui se prend du côté matériel et un propre qui se prend du côté de la différence spécifique, de la forme. Alors évidemment, le propre qui se prend du côté de la forme est beaucoup plus propre que l'autre.
Je vous donne un exemple. Quand vous dites l'homme est corruptible, l'homme est corruptible, qu'est-ce que c'est? C'est un propre. C'est essentiel à l'homme d'être corruptible. Si l'homme n'était pas corruptible, ou l'éléphant est un animal corruptible. Si l'éléphant n'était pas un animal corruptible, vous voyez que tous les éléphants qui existeraient depuis le début du monde, et que l'éléphant existe sur la Terre, vous voyez, le monde ne serait plus peuplé que d'éléphants. Il n'y aurait plus de place aux autres. Et comme l'éléphant est un animal particulièrement fort et puissant, il éjecterait les autres. Donc il n'y aurait plus que des éléphants. Non. Alors, ce serait un monde d'éléphants.
Alors, l'éléphant est corruptible grâce à Dieu. Il est périssable grâce à Dieu. Et ça lui fait partie d'être éléphant, d'être corruptible. Donc, le propre
est quelque chose d'essentiel. Ça touche la cuidité. Quand vous dites l'animal,
l'éléphant est corruptible. L'éléphant est périssable. Vous caractérisez l'éléphant. Est-ce que c'est un propre qui se prend de sa différence spécifique ou de son genre?
Vous dire que l'homme aussi est corruptible. Donc, vous voyez, c'est le genre animal. L'animal corruptible. Donc, la propriété. Vous voyez, le propre touche la propriété, exprime la propriété dans la réalité.
Alors, la propriété peut se prendre de l'aspect matériel ou la propriété peut se prendre de l'aspect de la forme.
Quand vous dites que le propre de l'homme, c'est de rire, être capable de rire, parce que normalement, le singe ne rit pas. De temps en temps, on pouvait dire que le singe rit tout le temps, mais il ne rit pas. Pas tout à fait de la même façon. Il fait des grimaces extraordinaires. Et le rire et le sourire. Sourire n'est pas une grimace. Évidemment, quand il y a des singes qui éclatent de rire. Hein. C'est très rare d'avoir vu des singes qui éclatent de rire. Je ne sais pas si ça existe. J'ai vu des singes furieux, des singes fureurs, mais des singes qui éclatent. Je crois qu'on peut dire que le propre de l'homme, c'est le sourire. Le propre de l'homme, c'est de sourire. Prenez un autre exemple, si vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Le propre de l'homme, c'est d'être capable d'apprendre la grammaire. Alors là, c'est sûrement ça caractérise l'homme. Il est capable d'apprendre la grammaire. Le propre de l'homme, c'est justement d'apprendre la philosophie. C'est aussi. C'est le propre de l'homme. Ça regarde la différence spécifique, là. Puisque vous ne pouvez pas le transposer par rapport à un autre animal. Donc, il y a des propres qui regardent des différences spécifiques. Et le propre qui regarde au point de vue du genre.
Ça, c'est très important à souligner. Il y a deux manières de s'approcher du caractère d'une réalité.
Ou par le point de vue générique, ce qui caractérise le genre. Ou le point de vue de la différence spécifique.
C'est pour ça que quand vous dites que l'homme est mortel, ça caractérise l'homme d'une façon générique. Quand vous dites que l'homme est ordonné à la mort, parce que c'est ce qu'on dit au point de vue dans certaines philosophies, tu vois, l'homme se définit par la mort. Vous voyez ce que ça veut dire quand vous dites l'homme se définit par la mort? Ça veut dire que l'homme porte en lui la mortalité. Il est capable de mourir. Et en disant qu'il est capable de mourir, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le propre du côté générique.
Et alors, vous ne pouvez pas définir l'homme par le point de vue générique.
Donc, dire que l'homme se définit par la mort, c'est très générique. Il n'y a pas du tout quelque chose de propre. Tandis que si vous dites l'homme est capable en face de la mort d'être angoissé, l'angoisse, est-ce que l'angoisse est une propriété générique ou spécifique? spécifique. Parce que ça implique toujours l'oubli d'un jugement. Quand il n'y a jamais eu de jugement, il n'y a pas d'angoisse. Les animaux ne sont pas angoissés. Bien heureux, les animaux ne sont pas angoissés. Ils sont très déterminés, ils ne sont pas angoissés. C'est pas l'instinct qui donne l'angoisse. C'est pas l'instinct. C'est l'intelligence non satisfaite. C'est l'intelligence qui oublie. Et c'est du côté de l'oubli. C'est l'intelligence qui a la place d'être attentive au réel et à l'unité du réel se perd dans la multiplicité, d'où l'angoisse. Alors, c'est pour ça que l'angoisse est une propriété du côté de l'intelligence spécifique. Donc, ceci, c'est pour vous faire comprendre hein, qu'il y a des propres du côté du genre et des propres du côté de la différence spécifique. Donc, des propres qui vont nous permettre de nous approcher de la différence spécifique, puisqu'on ne la tient pas. Mais des propres qui vont dans ce sens-là, et donc qui vont caractériser profondément le genre, en étant comme des remplacements de la différence spécifique. Quand j'ai saisi une propriété au sens fort, cette propriété me permet de ne pas saisir la différence spécifique et de définir profondément cette réalité. Alors, comment vais-je caractériser le propre? Après, j'ai essayé un peu de déblayer le terrain. Qu'est-ce que c'est que le propre au niveau universel? Alors, quelle est la fonction du propre au niveau universel? Vous voyez que c'est très difficile hein, de répondre. Parce que si j'ai un propre générique, l'extension du propre est très semblable au genre. Si j'ai un propre de différence spécifique, l'extension du propre est très semblable à la différence spécifique. Or, nous avons vu tout à l'heure que l'extension du genre et la différence spécifique sont les plus opposés. Et le genre les unit. Et le propre les unit. C'est très commun. Ce qui fait que c'est très difficile de caractériser exactement ce que c'est que le propre. Puisque le propre, je reprends le petit raisonnement que je fais pour que vous compreniez cela. Pour que vous compreniez, quand je suis en face de l'universel que je caractérise comme propre, je comprends que le propre, puisqu'il est, il se prend soit du genre, soit de la différence spécifique. Si je regarde donc l'extension du propre, je dois bien distinguer l'extension du propre qui se prend du côté du genre. Parce que cette extension-là est la plus grande qui soit, comme au point de vue du genre. Si au contraire je prends le propre du côté de la différence spécifique, son extension est beaucoup plus restreinte, puisqu'elle se ramène à la différence spécifique. Vous voyez, comme le propre est quelque chose de difficile à préciser, hein, puisqu'il implique les deux. Et ça, c'est normal, le propre implique les deux. Il caractérise quelque chose, une attribution quiditative, c'est vrai, c'est une attribution quiditative, mais c'est une attribution qui est seconde. Parce que ce n'est plus l'essence de la chose, ça touche la propriété. C'est de l'ordre de la propriété. C'est pour ça que pour bien comprendre le propre, il faut regarder ce que c'est que la propriété au niveau philosophique. Et la propriété au niveau philosophique, c'est quand même pas l'aspect premier de la quidité, c'est quelque chose qui suit, c'est quelque chose qui manifeste, c'est quelque chose qui émane de la quidité, c'est quelque chose de second. Mais ça reste essentiel. Il peut y avoir quelque chose de second qui est essentiel. L'essentiel n'est pas toujours premier. L'essentiel peut être second. C'est pour ça qu'on distingue un essentiel qui caractérise la réalité dans sa quidité et on regarde l'essentiel qui est second, comme un accident qui vient, mais un accident qui est propre. Et ça, c'est assez difficile, assez complexe à bien saisir. Hein. Je peux faire le même raisonnement du côté de la compréhension du propre. Le propre a une signification propre. Il a une signification propre qu'il caractérise. Quelle est la signification du propre? C'est justement, si vous avez affaire à un propre qui se prend du côté du genre, sa signification sera donc très faible, mortelle, corruptible. Si vous prenez au contraire le propre du côté de la différence spécifique, alors, sa signification, sa compréhension est très intense, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse ici.
c'est que le propre joue un rôle de méfaction. C'est pour ça que c'est si important. Dans notre vie intellectuelle, c'est le propre et la propriété qui joue le rôle le plus important. Très souvent, on reste au niveau du propre. Mais alors, on précise justement qu'est-ce qui caractérise une réalité et qu'est-ce qui la caractérise.
Vous avez dit qu'il joue un rôle de quoi ?
Un rôle très important. Très très important.
Vous avez voulu dire un rôle très propre. Ah oui.
Un rôle de métaxion.
Un rôle d'intermédiaire. Vous voyez, métaxion, c'est intermédiaire. C'est une médiation.
Vous voyez, la médiation, c'est un métaxion.
Vous voyez, c'est un terme extrêmement important, le métaxion. En grec, hein. Métaxion veut dire intermédiaire.
Et au fond, on cherche toujours, quand on veut comprendre quelque chose, on cherche une métaxion. Tous les drames humains, pour en sortir, vous cherchez un métaxion. Oui, c'est vrai, c'est les deux oppositions. Alors vous cherchez un intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Et l'intermédiaire ici, entre la plus grande opposition, c'est le genre et la différence spécifique. Nous l'avons vu, la plus grande opposition entre les deux, c'est le genre et la différence spécifique. Eh bien, le propre joue un rôle intermédiaire entre les deux. Puisque le propre touche le genre et le propre touche la différence spécifique. Et donc, le propre peut jouer un rôle de médiation entre les deux. Il médiatise le genre par rapport à la différence spécifique. Oui. Alors, si vous prenez une théorie dialectique d'opposition entre le genre et la différence spécifique, vous voyez comment tout est médiatisé par le propre. Et le propre fait la synthèse des deux. C'est très curieux. Alors ici, nous ne sommes pas dans une perspective dialectique, on est dans une perspective de la recherche de la quidité. Mais je vois bien comment, à partir de là, peut naître la dialectique. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je souligne ce rôle de médiateur que joue le propre. Et joue très fort ce rôle de médiateur entre le genre et la différence spécifique. Parce que quand je suis au niveau du propre, je suis où je m'incline vers là, ou je m'incline de l'autre côté. Bon, alors, dernier prédicable, le point de vue de l'accident. L'accident, c'est le prédicable périphérique. Parce que c'est celui qui... Toujours, c'est la distraction, le point de vue de l'accident. C'est la distraction. C'est celui qui vous fait sortir des choses essentielles.
Oui, jusque-là, j'étais dans les choses essentielles. C'est très curieux. Jusque-là, je suis dans les choses essentielles. Tout ça, c'est pour saisir quantitativement la réalité. Donc l'intelligence a quatre manières de s'approcher de la quantité. Et puis il y a une force qui n'est plus centrifuge, qui est juste inverse. Une force qui va me mener vers autre chose, tout le temps m'écarter, c'est l'accident.
Très curieux l'accident, au point de vue de la connaissance. L'accident, c'est donc le prédicable accident, hein, c'est ça, l'universel accident.
C'est presque contradictoire. Hein. Vous voyez, parce que qui dit l'universel, spontanément, quand vous pensez l'universel, vous pensez quelque chose de nécessaire. Et vous avez là un universel qui est accident. Ce n'est pas l'accident au niveau métaphysique, hein. Comme le propre, ce n'est pas la propriété au niveau métaphysique. Je reste toujours dans le domaine de l'être de raison. Mais dans ce domaine de l'être de raison, j'essaie de comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier à ma vie intellectuelle, de saisir l'accident. Et de faire que cet accident est saisi d'une manière universelle. C'est-à-dire qu'il est saisi d'une manière qu'il peut être attribué à une quantité de choses, attribué en les dénommant. Le propre de l'attribution accidentelle, c'est de dénommer. Et donc de ne plus saisir ce qu'il y a d'essentiel à la réalité. Le propre de la dénomination. Quand vous dénommez une chose, vous la dénommez toujours par quelque chose d'accidentel. Tandis qu'au contraire, quand vous saisissez quelque chose d'essentiel de cette réalité, vous la dites, mais vous ne la dénommez pas. Vous dénoncez ce qui est essentiel à cette réalité. Tandis que quand vous attribuez à une réalité quelque chose d'accidentel, vous ne dites pas ce que c'est que cette réalité. Vous la dénommez de telle manière. Un accident, c'est quelque chose qui ni n'est jamais essentiellement à la réalité à laquelle je l'attribue. C'est quelque chose qui n'est d'une manière accidentelle, c'est-à-dire qui n'est d'une manière dénominative, d'une façon dénominative. C'est curieux, c'est très curieux, ça, l'accident. L'universel accident est une chose très difficile à saisir. Mais c'est périphérique. Ça tourne toujours autour. Et c'est quelque chose qui met toujours à l'extérieur. Quelque chose qui regarde toujours à l'extérieur, qui vous met en dehors. Alors ça, c'est l'intelligence qui reçoit les miettes. Ce sont les miettes, les accidents. C'est toutes les choses secondaires qui n'inhèrent pas d'une façon essentielle et qui collent à la réalité d'une façon secondaire. Qui sont là présentes. C'est là présent, mais ça s'est ajouté. Ça s'est ajouté d'une manière seconde. Donc c'est toujours l'accident et quelque chose qui n'a plus de fondement quantitatif dans la réalité. Ça, ça va être très intéressant à suivre. Regardez donc toujours le petit plan que nous avions donné tout à l'heure. Hein. L'universel doit se comprendre par les deux termes corrélatifs, son fondement et le sujet. Comme ça, il faut le savoir par cœur. Hein. Tout universel, comme toute relation, implique les deux termes corrélatifs, le fondement et les sujets. Alors, je vous pose la question, quand il s'agit de l'accident, prenez comme exemple, hein, pour avoir un exemple, hein, pour avoir un exemple dans la tête, pour dire l'accident. Alors, prenez le blanc. L'homme est blanc. Accident. Vous pourriez prendre la taille aussi, mais ben, le blanc, c'est plus facile à saisir. Vous pourriez prendre la taille. Il pèse tant de kilos, 150 kilos. Accidentel, 150 kilos. Parce qu'avant, il ne les avait pas, il a eu un sommet, puis après, il a dégringolé. Mais il a atteint ça dans sa vie, à un moment donné. 150 kilos, c'est un exploit. C'est un accident. C'est pas un propre. Hein. Il mesure tant, c'est pas non plus impropre. C'est donc accidentel. C'est quelque chose qui le dénomme accidentellement. C'est quelque chose qui est accidentel, ça le dénomme. C'est pas caractéristique à cette réalité. Donc c'est une dénomination. Oui. Et pour que vous ayez un exemple de ce que c'est que l'attribution accidentelle, il suffit du reste de ordinairement dans la vie, on vit dans l'accidentel. Tout le temps. L'accidentel est présent constamment dans la vie. Alors, la blancheur, le vêtement, c'est une chose accidentelle. Le point de vue du poids, et ainsi de suite, c'est une chose accidentelle. Les relations, j'ai rencontré quelqu'un. Pierre a rencontré un tel à tel endroit. C'est accidentel, cette rencontre. Oui. Et comme ça joue, alors, dans les perspectives humaines, dans les perspectives existentialistes, on est tout le temps dans l'accidentel. Tout le temps. L'accidentel se décrit. Pourquoi ? Parce que si vous regardez profondément l'accident, l'universel accident, le bloc, vous voyez bien qu'on est devant un universel, en ce sens qu'il y a le blanc, qui est un terme universel, qui peut s'attribuer au mur, qui peut s'attribuer à l'homme, qui peut s'attribuer à la montagne est blanche. Est-ce qu'il y a la neige aussi ? Qui vous attribue à la neige, et ainsi de suite. Donc c'est un vis-à-vis de multiples. Ça, c'est un universel. Quel est le fondement de cet universel ? Cherchez le fondement d'universel blanc. Quand vous essayez de comprendre ce que c'est que le blanc, quel est le fondement d'universel blanc ? Ce n'est plus la cuidité. Puisque la cuidité d'homme
l'acuité de mur n'implique pas nécessairement d'être blanc. Le mur n'est pas nécessairement blanc. La montagne n'est pas nécessairement blanche. Donc ce n'est pas l'acuité, le sujet auquel je l'attribue. Je dis la montagne blanche. Vous voyez, quand je dis la montagne blanche, la signification de la blancheur ne vient pas de la montagne. Or, le fondement, c'est ce qui donne la signification. Alors, la quiddité de blanc vient de quoi? Elle ne vient pas du sujet, puisque ça ne fait que dénommer le sujet. Ça vient d'elle-même. Et donc, j'ai abstrait blanc par le point de vue blancheur. Très curieux. J'ai fait ce procédé très curieux pour avoir le fondement. Je vous dis, blanc, c'est très, très signifié. C'est le point de vue de l'accident est très intéressant. Ça explique des tas de choses. Si vraiment on réfléchissait sur l'universel accident. Parce que si vous cherchez, puisqu'il y a un universel blanc, le blanc du mur, le blanc de la montagne, c'est universel. Vous rassemblez des quantités de choses. Toutes les choses qui peuvent être blanches sont rassemblées. Même des corbeaux. Corbeaux blancs, l'aigle blanc, et ainsi de suite. Vous pouvez rassembler des tas de choses. C'est le vieux corbeau, le blanc. Bon, alors, un plus, il est attribué à beaucoup. Il est attribué à des quantités. Il est rassemblé. Quel est le fondement? Je me pose la question, quel est le fondement de l'accident universel? Quand vous dites le mur est blanc, vous attribuez blanc à mur, et vous ne pouvez pas dire que le mur est le fondement de cet attribut. Tandis qu'au contraire, lorsque vous attribuez quelque chose, quand vous attribuez animal à Médor, Médor est le fondement d'animal. Quand vous attribuez animal à homme, à pierre, c'est le fondement. C'est la cuidité. Donc il n'y a pas de cuidité. C'est un universel sans fondement. Un universel doit avoir un fondement. Cherchez quelle est la signification de blanc. C'est attribué à mur d'une manière extrinsèque. Donc ça dénomme le mur. Mais ça ne signifie pas ce que c'est que le mur. Et donc, quand il s'agit de l'accident, il a en lui-même sa propre signification. C'est donc par l'abstraction blanc-blancheur que je saisis le fondement du blanc. Pas autrement, ça ne va pas être autrement. C'est très curieux, ça. Et ça, c'est très important. C'est très important de comprendre que la signification de blanc vient de lui-même et non pas d'un autre, par une nouvelle abstraction. Et alors, je suis en présence d'un universel qui possède en lui-même son propre fondement, sa propre signification, et qui peut être attribué à des quantités de réalité extrinsèques. C'est le propre de l'accident. Alors, j'essaie à partir de là de comprendre la position de Occam et de beaucoup de modernes. Parce qu'à partir de Occam, on a les séquatchès, hein, qui sont très très multiples. Tous ceux qui ont suivi Occam. Qu'est-ce que dit Occam sur l'universel? Occam dit que l'universel n'est pas fondé sur la quiddité. Il dit que l'universel n'est pas fondé. Il a en lui-même sa propre signification et que la fonction donne la signification. Donc, Occam comprend l'universel comme l'accident. Ça qui m'intéresse, vous voyez, ça qui est intéressant à voir, c'est que tous les autres sont ramenés à l'accident, à l'universel accident. Puisque de fait, il dit qu'il n'y a pas de fondement propre au genre, à la différence spécifique, qu'il n'y a pas de quiddité, il n'y a pas de nature. Donc on n'a plus que la fonction. Et vous saisissez l'universel uniquement par la fonction. Et saisissant l'universel uniquement par la fonction, vous voyez qu'il y a des fonctions multiples, mais vous saisissez par le fait même l'universel à la manière de l'accident. Et c'est l'universel accident qui devient le prototype de l'universel. Alors qu'en réalité, si j'essaie de comprendre un peu, hein, je vois que c'est le genre qui fonde tout le reste, mais qu'il y a en effet un universel accident, parce que mon intelligence, alors là c'est très curieux de savoir pourquoi il y a cet universel accident, c'est parce que mon intelligence ne veut rien laisser tomber du réel, et que dans l'ordre de la vie humaine, les choses accidentelles peuvent prendre une importance capitale. Et donc, dans la connaissance, je n'ai pas le droit d'abandonner l'accidentel. L'accidentel peut jouer dans l'ordre de la réalité humaine quelque chose de très très important. Dans l'ordre scientifique, dans l'ordre rationnel, je laisse tomber les accidents. Mais pas dans l'ordre humain. Dans l'ordre existentiel, l'accident est très important. Alors, vous voyez comment, si on essaie de comprendre ce grand passage du nominalisme, où on ne regarde plus l'universel que sa fonction. La seule chose qu'on regarde de l'universel, c'est la fonction. Si vous regardiez dans la logique mathématique, aujourd'hui, puisque vous avez quelques cours de logique mathématique, si vous aimez bien, c'est important pour vous de bien saisir. Alors, on vous donnera quelques cours de logique mathématique. Je les réserve pour la fin, pour vous montrer que la différence entre la logique classique et la logique mathématique. Je crois que c'est intéressant pour vous d'avoir au moins la comparaison, puis on essaiera de réfléchir ensuite. Eh bien, vous verrez qu'en logique mathématique, l'universel n'est que fonctionnel. Vous ne saisissez plus rien du tout de la compréhension, plus rien du tout de la signification. C'est uniquement la fonction. Alors, c'est très intéressant de voir que déjà chez Occam, c'est pas une invention, c'est très ancien, déjà chez Occam, l'universel est uniquement fonctionnel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de fondement de l'universel. S'il n'y a plus, plus de fondement de l'universel, il n'y a plus de signification, donc plus de compréhension. Il n'y a plus que l'aspect extension. Alors c'est quand même très curieux de voir que ceci correspond rigoureusement à l'universel accident. Il y a toujours une part de vérité dans les erreurs. Hein? Toujours. Alors il s'agit de saisir à quel endroit on peut rejoindre. Et on peut lier les deux. Et on voit qu'en effet, quand il s'agit de l'universel accidentel, l'aspect fonction de l'universel, c'est-à-dire l'aspect qui enveloppe, c'est l'aspect enveloppant de l'universel, par où les fonctions, par où les attributs, est la plus forte, puisqu'il dénomme. Dénommer quelque chose, c'est l'envelopper. Pour qu'il apparaisse de cette manière-là. Et on ne voit plus que l'apparence. Puisque la réalité profonde, nous ne la saisissons pas par la dénomination. Donc c'est une réalité qui nous échappe. Et on saisit que l'univers, on saisit que l'aspect accidentel. Alors c'est quand même très curieux de voir qu'à partir de Occam, c'est l'universel accidentel qui va nous faire comprendre ce que c'est que l'universel. Et cette doctrine de l'universel uniquement fonction va se développer ensuite. De plus en plus, on ne verra plus que cela. On ne verra plus que l'universel fonction. Et l'universel, dans son fondement et dans sa signification, disparaît. Vous le reverrez mieux en voyant ce que c'est que la logique mathématique. Hein. Mais c'est important de le saisir ici tout de suite, en comprenant qu'avec l'universel accidentel, j'ai un lien de rencontre. Et vous voyez que ça va très loin, ça. Alors à ce moment-là, je tombe dans Kant, puisque je ne connais pas la réalité. La réalité profonde, c'est nous-mêmes. Je ne la connais pas. Ce que je connais, c'est uniquement l'attribut. Et donc je dénomme. Et je ne saisis plus l'acuité des choses. Et donc si je ne saisis plus l'acuité des choses, je n'ai plus comme universel que l'universel accidentel. Que je rajoute les uns aux autres, en raison de leur fonction. Mais il n'y a plus une inhérence profonde qui me donne l'organisation de ces différents prédicats. Alors, j'ajoute à cela, parce que là je vous ai donné donc rapidement, c'est sûr, mais je vous ai donné un peu ce que représentent ces différents prédicats. Ça, il faut y réfléchir un peu. Hein. j'espère. Si vous avez des questions, vous les noterez, et puis on y répondra la fois prochaine. C'est important, ça, le prédicat. C'est une chose importante, c'est une chose de la logique très très importante à voir. Et puis c'est là où on voit la divergence entre la logique mathématique et la logique classique. C'est intéressant à voir. C'est là où on voit la divergence entre la logique occamienne et puis la logique aristotélicienne. Vous voyez ? C'est que de fait, au niveau des prédicables, c'est l'universel accident qui va donner le prototype. Alors, à partir de là, deux questions. En nota bene, j'ajoute ça en nota bene. Deux petites questions intéressantes. Qui seraient de très longues questions si on voulait les prolonger. Je vois tout de suite, une fois que j'ai saisi les prédicables, je vois tout de suite la différence avec les prédicables. Dans les prédicables, la signification est au niveau du fondement. Dans les prédicaments, la signification est donnée immédiatement. Donc la différence entre les prédicables et les prédicaments, c'est que le problème de la compréhension et de la signification est immédiat dans les prédicaments, il est fondamental dans le problème du prédicat. Alors là, vous avez vraiment une précision technique, logique entre les deux. J'espère que vous voyez. Hein. Regardez, reprenez toujours l'universel. Prenez l'universel animal. Oui, je reprends pour que vous voyez l'expression. Dans les prédicables, la signification est au niveau du fondement. Dans les prédicaments, la signification fait partie essentielle du prédicament. C'est ça la différence entre les deux. C'est la différence entre la compréhension et l'extension. Alors, ça, c'est un petit problème. Second problème, qui serait alors un problème de critique. Là, on reviendra en critique. Ce serait intéressant à voir. Ce serait très intéressant à essayer de saisir ça au point de vue critique. Un problème qu'on ne voit jamais, parce que c'est très prédicable, on ne les voit pas beaucoup. On les voit logiquement, on donne vite la définition du prédicable, les règles des prédicables. C'est, on ne réfléchit pas beaucoup dessus. Un problème qui serait très intéressant, c'est de se poser la question, pourquoi les cinq prédicables ? Pourquoi les cinq prédicables ? Parce que c'est quand même intéressant de savoir ça. Si vraiment mon intelligence est liée au prédicable et que je connais toujours tout à travers les prédicables, c'est quand même très intéressant au point de vue critique. Non, pas au point de vue logique, mais au point de vue critique. Comme nous avons fait la critique de l'appréhension, je voudrais maintenant essayer de réfléchir. Pourquoi y a-t-il cinq appréhensions d'un type différent qui engendrent cinq êtres de raison ? Alors, je reprends ce que nous avions vu au point de vue critique. Nous avions vu que l'appréhension, c'était l'intelligence liée à l'image et qui, à partir de l'image, abstrayait la forme intentionnelle qui signifiait l'image relève, regarde la réalité, pour saisir dans la réalité son aspect cuditatif, la cuidité de la réalité sensible. C'est propre de l'intellect agent, nous avions vu ça, au point de vue critique, qui illumine l'image pour qu'il y ait cette forme intentionnelle, d'où le concept. Et l'universel provient du fait même qu'il y a une abstraction de l'image à la forme intentionnelle. Je vous rappelle ce que nous avions vu. C'est un peu oublié, je comprends. Ça s'oublie vite, ces choses-là. Mais il faut justement les reprendre diversement. Or, je vois bien que l'image est toujours reliée à la réalité sensible. Et la réalité sensible, c'est l'intelligence liée aux sensations qui produit ça. Or, les images sont toujours dépendantes à la réalité sensible. Et en fonction des contacts divers que j'ai avec la réalité sensible, j'aurai des images différentes. Alors je me pose la question, est-ce que les prédicables, qui sont un fait, hein, que je constate, est-ce que les prédicables ne proviennent pas radicalement du fait que mon intelligence est liée dans toutes ses expériences aux cinq sens ? Autrement dit, je suis en présence d'une intelligence incarnée. Mon intelligence est liée à la sensibilité, aux sensations. Et que les plis, alors il faut faire grande attention, hein. Il ne s'agit pas de faire une espèce de truc univoque. Ah oui, je comprends, le genre, oh mais oui, ça y est, c'est par où je touche la réalité matérielle, c'est très vrai. Votre intelligence mendie son bien par le toucher, d'où elle génère. C'est très curieux ça. Alors chez ceux chez qui le toucher sera plus développé, la connaissance générique sera plus développée. C'est une chose curieuse, ça. Ce serait très intéressant de faire cette petite enquête. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours du côté de la connaissance générique, c'est le toucher. La vue, différence spécifique, et ainsi de suite. Nous y reviendrons la fois prochaine.